Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Larkin, je suis médecin conseil pour les affaires cliniques préhospitalières. Je suis aussi médecin d'urgence. On est début décembre 2020, puis on a eu une drôle d'année. Ça a changé sans arrêt, ça nous a demandé cette année-là d'étirer nos capacités d'adaptation à tous les points de vue. Mais comme ça n'arrête jamais, parce que hein, c'est ça la vie, ça bouge tout le temps, bien, on continue d'en apprendre un peu tous les jours sur la COVID. On commence la première vague de vaccination cette semaine. L'American Heart Association a aussi sorti des nouvelles recommandations au mois d'octobre. Puis il y a plusieurs régions qui nous ont soumis des idées ou des situations cliniques là, qu'on dirait assez importantes pour être de portée provinciale. Alors, l'équipe des affaires cliniques a décidé de produire un bulletin clinique qui, j'en conviens, est assez long, là, mais traite essentiellement de deux sujets. On va traiter de la réanimation, puis du déplacement et transport des patients. La balado que vous écoutez présentement là, se veut un complément, en fait, qui, je l'espère, va vous permettre de mieux comprendre certains des changements qui ont été faits, puis de les appliquer avec confiance là, le moment venu. Alors, déjà, le bulletin clinique, nouvelle équipe veut dire nouveau format, un peu une nouvelle approche. Alors, vous allez voir que la présentation visuel du bulletin clinique a changé. Ça se veut notre nouvelle facture visuelle. Vous allez y trouver un sommaire exécutif avec tous les points clés des éléments à garder en tête. Donc, le sommaire exécutif en une seule page se veut un résumé des gestes à poser pour chacun des sujets. Dans le cœur du texte, là, j'ai fait un effort de synthèse pour ramener chaque sujet à une seule page, avec quand même un peu de détails, mais vous trouverez en caractère gras encore là les éléments clés des gestes à poser. Puis dans la page en question, vous aurez aussi des références incluant des sites web d'information, parfois qui réfèrent à des sites pour des patients, d'autres fois à des articles scientifiques. On veut vous donner l'opportunité d'aller explorer, forer un sujet qui vous intéresserait particulièrement. Alors, on plonge. Premier thème, quatre petits éléments sur la réanimation. Le premier sujet, c'est la réanimation. C'est en RIA 1 MRSI, puis les éléments de ventilation qui tournent autour de ça. Ça s'adresse aux paramédics, aux premiers répondants qui ont des outils de ventilation. Alors, dans le contexte MRSI, on a, dans le contexte du COVID, là, on a, vous vous souvenez, au printemps, retiré tous les éléments de ventilation. Tranquillement, en cours de route, juste avant l'été, on s'est dit, mais les enfants sont des grands consommateurs d'oxygène, ils sont peu enclins à transmettre la maladie, alors on a réintroduit la ventilation, une possibilité de ventilation donc chez les enfants. En le faisant, on a développé le protocole TEC-15, qui permet d'ajouter filtres puis de faire les choses de façon beaucoup plus sécuritaire en évitant de libérer des aérosols. Maintenant, on revient à la charge avec un autre groupe de patients qui a un besoin accru en ventilation. Le premier histoire de cas, en fait, c'est vraiment ceux qui sont la clientèle caractéristique à laquelle qu'on veut traiter avec cette introduction-là, c'est-à-dire les intoxications aux opiacés. Donc, on parle d'adultes en code qui ont perdu leur réservoir d'oxygène. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on se permet de faire du hands-only CPR, de la compression thoracique seule, sans ventilation chez les adultes, c'est parce qu'on a déterminé que chez l'adulte qui s'effondre, donc qui va pelleter, qui a sa douleur thoracique, qui s'effondre immédiatement, ce patient-là a un réservoir d'oxygène dans ses poumons puis dans l'espace mort qui lui permet de l'utiliser tranquillement jusqu'à ce qu'on puisse le défibriller puis le réanimer. Maintenant, vous comprenez qu'il y a une part de la clientèle chez qui le mécanisme n'est pas celui-là. Le mécanisme va être plutôt comme une intoxication aux opiacés, prenons ce cas de figure. Le patient va diminuer sa capacité respiratoire progressivement, donc consommer son réservoir d'oxygène, Puis quand le réservoir est à sec, le corps ayant besoin d'oxygène, le cœur va cesser de respirer, va cesser de fonctionner, les pressions vont s'effondrer. Donc, ce cas de figure-là, on voulait s'assurer de pouvoir ventiler cette clientèle-là. L'important chez cette clientèle-là, c'est de recommencer la mécanique ventilatoire, sortir le CO2, donner de l'oxygène pour repartir la machine puis donner de l'énergie. Si on garde cet élément-là en tête, il y a d'autres situations, par exemple les obstructions des voies respiratoires supérieures, les pendaisons, strangulations, les noyades, qui vont avoir le même mécanisme. On a aussi ajouté les intoxications au monoxyde de carbone, parce que le traitement, c'est l'oxygène, et les femmes enceintes, parce que, tout comme les enfants, elles sont des grandes consommatrices d'oxygène. Ici, on ne propose pas de faire comme en pédiatrie, puis de faire 2 minutes avant de défibriller. On dit juste, faites comme avant, saute dessus, puis amorce la ventilation, mais en précaution MRSI avec la technique de TEC 15. Un autre sujet traité dans le bulletin clinique, c'est la réanimation dans le cas d'intoxication aux opiacés. On vient changer ici les protocoles de Réa 1, Réa 5 et de MED 12. On s'entend là, on parle de réanimation. Si on a un patient qui est en hypoventilation suite à une intoxication aux opiacés, tout le volet sur l'utilisation de l'naloxone de 0,4 mg par dose répétable 3 fois demeure. Maintenant, si le patient est rendu en arrêt cardio-respiratoire à cause d'une intoxication aux opiacés, il est très, très loin dans l'évolution de la physiopathologie. Et donc, à ce moment-là, l'efficacité de l'antidote pour ramener le patient à un état de conscience complètement normal est quand même, j'oserais dire, mitigée. Les priorités à ce moment-là sont la prise en charge d'une ventilation efficace puis les compressions thoraciques. On se l'est dit, ce qu'on veut, c'est remplir les réservoirs d'oxygène puis sortir le CO2. Donc vraiment, prendre en charge la respiration, maximiser la ventilation. Puis comme l'antidote a un effet relatif dans ce cas-ci, on va appliquer nos priorités, puis quand on va avoir du temps, ensuite, on va aller chercher notre antidote. Ce qu'on propose ici, c'est en fait de donner l'antidote à dose maximale en une seule fois, peu importe le moment de l'intubation, parce que c'est dans le fond la ventilation qui améliore les chances de survie du patient, même pas l'intubation, là, vraiment la ventilation. Donc, on va donner 4 mg de naloxone intramusculaire en une seule dose. Là, vous allez me dire, Anne-Marie, il y a un bug technique dans ta stratégie. 4 mg, ça fait 4 ml de volume. Alors, je vous arrête tout de suite. On sait qu'on peut mettre jusqu'à 5 ml de volume dans un vaste externe ou dans un grand fessier. Le muscle vaste externe, au niveau de la cuisse, chez l'adulte, va donc pouvoir accommoder toute notre dose. On s'entend, là, le grand fessier ne serait pas très pratique en réanimation, en préhospitalier. Donc, on va administrer 4 mg en une seule dose. Si vous avez des plus petites seringues, bien, vous allez préparer 2 fois 2 ml, puis l'administrer tout au même moment. Ça va quand même être plus pratique puis plus rapide. On fait le geste en séquence, puis on passe à d'autres choses, parce que, ma foi, il y a plein d'autres choses à gérer dans une situation comme celle-là. En pédiatrie, on va aussi administrer 4 mg en une seule dose. Le hic, c'est que si la cuisse elle est plus petite, à ce moment-là, on va séparer les volumes en 2 fois 2 ml, puis on va utiliser chacune des cuisses. Donc, 2 ml dans une cuisse suivi de 2 ml dans l'autre cuisse, en même temps, ou plutôt successivement, mais rapidement, à peu près au même moment, pour être capable de maximiser notre intervention. Bref, 4 mg en une seule dose en cas d'ACR, ça va bien faire le travail, puis on va être capable de faire les gestes subséquents. Le prochain sujet qui est abordé dans le bulletin clinique, c'est la défibrillation et la source d'oxygène. Cela est intéressant parce qu'il y a de l'historique avec ça. Quand on applique, en fait, ce qu'on s'est toujours dit, c'est que l'oxygène, en présence d'électricité, ma foi, c'est dangereux. Il y avait, on avait une inquiétude d'un risque de causer des brûlures, des arcs électriques, voire des boules de feu. Alors, on a récemment revisé, regardé la littérature, puis il faut savoir que déjà depuis 2010, l'AHA nous apprend qu'il est permis de laisser la source d'oxygène en présence de défibrillation, mais il y a un petit, un petit truc à garder en tête. Le truc à garder en tête, c'est qu'il faut savoir que les études qui nous ont amenés à retirer la source d'oxygène datent des années 70. Alors, pour l'anecdote, dans les années 70, on utilisait des palettes en métal pour la défibrillation, là. Les technologies ont changé et si les arcs électriques étaient plus fréquents à l'époque, bien que ce ne sont que des séries de cas qui ont été rapportés, aujourd'hui, on utilise des électrodes de défibrillation auto-adhérentes. Si ces électrodes-là sont bien collées, il n'y aura pas d'arc électrique qui va se faire. D'ailleurs, il y a des études sur mannequins qui ont été faites et ce qu'on remarque, c'est que, un, si les électrodes sont bien collées, ça va. Et même avec les palettes métalliques, il faut qu'il y ait l'oxygène qui aille vers le thorax, donc une source d'oxygène à moins d'un mètre du patient, en circuit ouvert, pour créer une bulle d'oxygène pour potentiellement générer un arc électrique. Bon, une fois qu'on comprend tout ça, on comprend qu'il devient très sécuritaire de laisser brancher, une fois le patient intubé, on peut se permettre de laisser brancher l'oxygène dessus, simplement soit se reculer et s'assurer que l'environnement, lui, est sécuritaire pour la défibrillation. Il faut quand même s'assurer que personne ne touche au patient, là. Dans toutes les autres situations, c'est-à-dire que c'est le ventilé au ballon ventilatoire, à ce moment-là, on a déjà la source dans les mains, alors on la retire à plus d'un mètre du patient pour respecter les recommandations des études qui ont été faites il y a quand même plusieurs années de ça. On vous encourage à s'assurer que les électrodes sont bel et bien, très, très bien adhérentes au thorax. Dans le doute, vous pourriez quand même retirer la source d'oxygène. Autre sujet de réanimation, la ventilation en pédiatrie. Ces recommandations-là viennent de changer parce que l'American Heart Association a sorti les recommandations au mois d'octobre 2020 et ça, c'est un des changements. C'est-à-dire que si votre enfant est en réanimation, qu'il a besoin de compression thoracique, on continue à faire du 32 intervenants seuls ou du 15-2 si on est deux intervenants. Mais, il y a un mais, si votre patient est intubé, puis que vous êtes en ventilation asynchrone, ou que vous êtes simplement en assistance ventilatoire, à ce moment-là, il faut accélérer un peu la ventilation. Depuis le début, on se le dit, là, il y a des patients qui sont des grands consommateurs d'oxygène, les enfants sont clairement de ceux-là, ce sont nos plus grands consommateurs d'oxygène, et plus on est petit, plus naturellement, on respire vite. Alors, on voudrait pouvoir mimer un peu la respiration puis venir à côté le besoin, fournir le besoin en oxygène puis en ventilation des enfants. Donc, la recommandation, c'est de ventiler aux 2 à 3 secondes dorénavant. 2 à 3 secondes, c'est très rapide. Ça nous fait 20 à 30 respirations par minute. Ça veut dire que chez les tout-petits, il n'y aura pas de problème. Chez les enfants là, de 1 an, c'est des petits thorax ventilés à 30 à la minute et respirent déjà à cette fréquence-là. Un tout petit volume d'air à rentrer, un tout petit volume d'air à sortir. Ça ne prend pas de temps, ça se fait bien. Plus le thorax va être gros, plus on s'en va vers un 8, 9, 10 ans, là, pré-ado, plus le volume donc, du thorax est grand, plus ça va être long de rentrer et de sortir l'oxygène, l'air en général. Et donc, vous comprenez que si on essaye de ventiler à 30 chez des très gros thorax, ça va faire une respiration relativement superficielle. Donc, l'AHA nous a donné cette marge de manœuvre-là, entre 20 et 30 respirations par minute, plus vers le 30 pour les bébés et plus vers le 20 pour les plus grands enfants. C'est quand même une accélération par rapport à ce qu'on faisait auparavant, puis ça va être un changement avec quand même un peu d'adaptation. La chance qu'on a, c'est qu'il y a une formation qui s'en vient en préhospitalier sur le traitement des convulsions, où on va aussi aborder les ventilations, le support ventilatoire chez les enfants, et on aura l'occasion de pratiquer ça. Dans la deuxième section toujours du même bulletin clinique, on parle maintenant des déplacements puis des transports des patients. Alors, ces trois petits sujets-là qui se veulent plus des précisions qu'autre chose. Le premier, c'est sur les transferts inter-établissements. Vous savez, en situation MRSC, on a initialement retiré, on se l'est dit, tous les éléments de ventilation, mais aussi tous les éléments de support respiratoire. On est en train de réintroduire ça tranquillement, mais avec des particularités, le TEC 15 a ajouté des filtres. Donc, on a appris de la situation COVID, puis on est un peu plus wise pour ajuster, dans le fond, nos façons de faire pour être sécuritaire, puis filtrer l'expiration du patient au cas où il y aurait des virus dans cette expiration-là, dans les aérosols que ça génère. Le rappel ici, c'est en fait que comme les procédures ont changé beaucoup, comme on a diffusé énormément d'informations, ça se pourrait que vous arriviez auprès d'une infirmière, d'une inhalo qui a des procédures différentes. Nous vous encourageons à se parler lors des transferts, s'assurer que tout le monde a, si on génère des aérosols, donc que tout le monde a ses EPI correctement, son masque N95, que la ventilation est activée dans le véhicule, mais aussi qu'il y a des filtres expiratoires sur les appareils du patient. Bref, ce qu'on vous dit, c'est la sécurité, c'est l'affaire de tous. Assurons-nous que même si la responsabilité du patient est partagée, on valide les éléments de sécurité, entre autres, autour des IMGA. À ce sujet-là, le Collège des médecins vous allez le trouver dans les références, le Collège des médecins a fait un document au mois d'août 2020 sur les transferts inter-établissements et on y parle du rôle des paramédics dans les transferts de façon fort intéressante. Avant-dernier sujet, déplacement des patients avec des appareils respiratoires permanents. Ce que ça veut dire, vous avez tous déjà vu cette clientèle-là, c'est une clientèle un peu particulière qui à domicile, vit avec une trachéo ou pas, mais un appareil qui remplace les difficultés mécaniques respiratoires qu'ils ont. Alors, je m'explique, c'est généralement des patients qui ont soit des syndromes restrictifs, des maladies neuromusculaires, parfois dégénératives, parfois pas, mais dans tous les cas, des gens dont la mécanique respiratoire est faible. Et donc, ils ont, à la maison, des appareils respiratoires, des CPAP, des BIPAP, des fois des appareils de ventilation plus complexes que ça, qu'ils utilisent toute la journée ou une grande partie de la journée avec ou sans support complément d'oxygène. Alors, vous voyez déjà, il y a un peu de nuance. Chaque patient a son outil particulier avec ses paramètres ventilatoires ajustés juste pour lui. Mais ce qui est certain, ce qui est commun à tous ces patients-là, c'est qu'ils ont hautement besoin de leur support mécanique ventilatoire parce que eux, leurs muscles puis leurs poumons ne sont pas capables de faire un bon échange puis une bonne mécanique ventilatoire. Donc, vous comprenez, une fois qu'on comprend ça, on comprend qu'ils sont dépendants de leur machine, puis que même si en contexte de COVID, on a dit qu'il fallait retirer les appareils ventilatoires, dans ce cas-là en particulier, si on retire, le patient est à risque d'en décéder. Il va accumuler du CO2, il ne sera pas capable de faire son échange gazeux. Donc, ce qu'on dit dans le bulletin clinique, c'est si vous avez ce genre de clientèle-là à transporter, vous maintenez, il faut absolument maintenir les appareils respiratoires, puis on s'assure simplement que nous, on a nos EPI. Ici, il y a un petit bémol, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas ajuster ces appareils-là à notre goût, puis on ne peut pas ajouter de filtre non plus sur les appareils permanents de ces patients-là. S'ils n'en ont pas déjà, de toute façon, la zone expiratoire est souvent libre, c'est-à-dire que l'expiration va dans l'air ambiant. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est porter correctement vos EPI, mettez un N95 si le patient est à risque de COVID, mais de grâce, gardez l'appareil auprès du patient sans le modifier. Bien sûr, si le patient décompense, si le patient perd conscience, à ce moment-là, vous retirez les appareils permanents du patient puis vous utilisez vos outils, donc le ballon ventilatoire, l'oxylateur. Si on doit remplacer quelque chose, on utilise nos outils, mais on essaie autant que possible de garder l'outil du patient tant que c'est cliniquement acceptable. Il faut savoir que ces patients-là sont ceux qui ont déjà de l'oxygène, ont une drive respiratoire hypoxique. Je suis désolée pour l'anglicisme, il faut les traiter comme une clientèle MPOC oxygénodépendante. Donc, quand vous allez appliquer votre TEC 10, votre ajustement d'oxygène pour ce patient-là, les cibles seront les mêmes que pour les MPOC oxygénodépendants. Petit bémol, il faut savoir que la plupart des appareils ont des sources d'humidité. C'est souvent des plateaux ouverts. Si vous partez avec l'appareil, il faut l'apporter à l'hôpital. Si vous partez avec l'appareil, vous risquez de renverser la source d'eau stérile qui est dans le boîtier. Il faut prendre le temps de juste vider l'eau à côté, dans le lavabo avant de partir avec l'appareil. Les soignants sont souvent au courant, là, les aidants naturels, mais j'imagine qu'en situation catastrophe, dans le feu de l'action, certains pourraient l'oublier. Alors, en le sachant, vous allez pouvoir y penser, vous aussi. Dernier sujet, mais non le moindre, le déplacement autonome des patients. On a voulu, par cette portion-là du bulletin clinique, venir encadrer une pratique qu'on sait qui existe déjà, mais qui est faite de façon un peu inégale dans les régions. Alors, on est venu modifier une partie des généralités pour que une fois que le paramédic a fait l'appréciation initiale du patient, sous certaines conditions, on va juger que dans un certain cadre, il y a des patients qui effectivement peuvent se déplacer par eux-mêmes. Je pense à un patient qui n'aurait pas de douleur axiale puis qui aurait une simple fracture de clavicule, par exemple. Ce patient-là peut se déplacer, puis il n'est pas... s'il est stable puis qu'il n'est pas à risque de détérioration hémodynamique. Alors, ce qu'on dit, c'est que les patients stables, qui n'ont pas de risque de chute, qui n'ont pas de risque de détérioration clinique, peuvent se déplacer de façon autonome jusqu'à la civière ou jusqu'au véhicule, mais sous supervision du paramédic. Il y a des situations cliniques qui sont plus à risque. Le bulletin clinique en liste quelques-unes. Ce sont des exemples. Mais évidemment, si votre patient a des signes d'AVC, de détresse respiratoire, des douleurs thoraciques, qui a eu une syncope en se levant, nécessairement, ces patients-là sont à risque. Puis on ne voudra pas les faire mobiliser de façon autonome. Ce serait vraiment trop bête d'avoir un patient qui chute devant nous parce qu'on l'a encouragé à se mobiliser. Si le patient a trop de douleur ou refuse de se déplacer, non plus, on ne va pas le forcer. Enfin, là, on arrive en hiver. Je vous ai dit, on est en décembre présentement. Je vous encourage, si vous décidez d'opter pour un déplacement autonome du patient, à vous assurer que l'environnement est sécuritaire. Une chute dans les escaliers est si vite arrivée. Alors, juste de tenir cet élément-là en considération aussi. Du moment que le patient se met à marcher, si vous voyez qu'il est le moindrement chambranlant, prenez pas de chance. Mais là, on vient par cet élément-là de venir quand même augmenter un peu puis utiliser le jugement clinique des paramédics pour encadrer les déplacements autonomes, donc des patients. C'était le dernier sujet du bulletin clinique. J'espère que j'ai essayé de vous faire ça un petit peu en rafale. J'espère que ça vous a été utile, que vous vous sentirez plus à l'aise pour appliquer ces éléments-là. N'hésitez pas à contacter vos formateurs de proximité dans vos régions. Puis, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Tout le réseau est là pour vous épauler. Continuez votre bon travail. Merci beaucoup. Bonne journée. Puis, à bientôt.